Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 23 juillet 2025. On se retrouve avec un Bitcoin toujours à cet équilibre proche des 120 000. On est juste sous les 119 ce matin. Un Ether à 3700, XRP autour de 3,50 à plus 3%, plus 6,62 pour Solana qui se hisse au-dessus des 200$. Dogecoin à plus 9%. On a le BNB d'ailleurs, que je ne l'oublie pas, qui a touché hier les 800$ ou au cours de cette nuit. On est à 111 milliards de cap, à peu près la moitié de ce que compte aujourd'hui XRP, qui lui-même compte un peu moins de la moitié de Ethereum. Et quand on regarde comme ça sur le top 20, on est soit à l'équilibre, soit sur des performances de plus 5 à plus un peu moins de 10%. Quand on continue d'avancer, top 30, pas de grande sur ou sous-performance, en tout cas en journalier pour l'instant, puisque l'hebdomadaire, on a quand même quelques disparités. Plus 9% pour Retena, qui donc nous pousse désormais un fois 2 en mensuel. On est à 3,2 milliards de cap. Caspa, plus 9%, 20% pour Puget Penguin, qui est désormais à x4 plus 3 en 20% en mensuel, 44e place, 2,32 milliards de cap. Ça bouge pas mal autour de cette collection en ce moment. Après, comme d'habitude, hein, les mêmes coins, vous en faites ce que vous voulez. Mais si par miracle vous arrivez à en dégager quelque chose, par pitié, ne gardez pas ça lors d'un futur bear market. Et pour le top 50 qui se clôture donc à 2,10 milliards de cap, on a Asa, Sei et Gate Token, ainsi que le Worldcoin qui aujourd'hui, je sais pas du tout où ça en est ce projet, mais on n'en entend quasiment plus parler. En tout cas, sur le 4 heures, on est désormais borné entre les 115-116 et en haut les quasi 124 qu'on avait touché. On voit que pour l'instant, on a une cassure de la volatilité qui pourrait s'apparenter comme ceci à un petit flag ou un petit biseau. On va voir, on arrive mine de rien en bout de cette contraction, en tout cas en 4 heures. Ça peut encore durer tant que finalement les flux continuent d'être alimentés sur les altcoins, mais on voit que au niveau des open interest, on n'a plus véritablement d'augmentation ici. Donc on va avoir un mouvement certainement qui va revenir liquider les gens. Est-ce que ça va repartir en direction des 125 ou est-ce qu'on part en direction des 115 sous peine de voir peut-être 110, 112? Voilà, c'est là toute la question. En tout cas, le Crypto Fear and Greed est à 74. On n'est pas rentré dans l'extrême euphorie. Je vous invite dans la dernière émission de lundi à consulter notamment l'indicateur maison, qui est un agrégateur de tous les autres indicateurs, qui vous permettra d'y voir un peu plus clair quant à la surchauffe intégrale du marché crypto. Également, ça n'est pas sponsorisé aujourd'hui, puisque en étant pause cet été, vous vous doutez bien que les marques n'aiment pas dilapider leur argent pour rien. Mais il y a le coffre Morpho ETH qui a été lancé hier du côté de votre application Desblocks. Donc je fais passer l'information, et pour ceux qui veulent découvrir cette app, vous avez le lien en commentaire et description. J'attire également votre attention sur le fait que AAV, pour l'instant, que ça soit Tether ou USDC, est autour de 5%, donc pour le borrow, c'est-à-dire l'emprunt. Toujours pas de surchauffe de ce côté-là non plus. Ça commence à devenir critique au-dessus de 8-10, et à partir de 15%, c'est un peu sauf qui peut. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est matérialisé par le passé. Donc c'est un truc à surveiller ça aussi, comme le lait sur le feu, puisqu'à partir du moment où les taux d'emprunt partent complètement en couille, c'est le cas de le dire, en général, c'est le moment pour commencer à regarder vers la sortie. Benjamin Cohen qui disait que imaginez être Jérôme Powell aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une situation intenable, puisque il a malgré tout réussi le tour de force de faire baisser l'inflation de 9 à 2% tout en gardant le taux de chômage sous les 4% ou autour de 4%. Pendant ce temps, que ça soit les actions, le Bitcoin ou le Gold, tous ont fait un ATH, et aujourd'hui la population demande à ce qu'il quitte son poste de la Fed, ou du moins la population, c'est plutôt l'administration de Trump, voire Trump lui-même. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, puisqu'ils sont en train de lui sortir des pseudo-casseroles à dire le département de la justice se attaque Jérôme Powell parce qu'il aurait fait plus de dépenses qu'il ne le fallait pour refaire je sais pas trop quoi. Enfin, je suis pas rentré dans les détails, ça m'intéresse même pas. Quand j'ai vu passer la news, je me suis dit vraiment ils sont complètement tarés là-bas. Mais bon, dans tous les cas, je suppose qu'il est sur un siège éjectable, que ça soit de son propre départ ou tous les bâtons qui vont lui mettre dans les roues pour véritablement le pousser vers la sortie. Qu'en sera-t-il du prochain Jérôme Powell à la tête de la Fed? En tout cas, c'est un véritable sujet en ce moment. On a une petite vidéo qui a circulé autour d'une imposition d'office de 60% si on ne déclare pas ses cryptos. Et donc, je vous donne les informations que j'ai à aujourd'hui quand on demande à des avocats fiscalistes qui sont assez spécialisés sur le sujet. Bien entendu, la liste n'est certainement pas exhaustive. Bien entendu, il y a des choses qui ont certainement évolué dans les dernières semaines, voire derniers mois. Peut-être qu'en positif ou en négatif par rapport à ce que je vais vous donner. Mais toujours est-il, ce qu'il faut en retenir pour ceux qui ont ont la flemme de lire ou de rester pour les une ou deux prochaines minutes, eh bien, c'est qu'il faut absolument, en 2025-2026, déclarer vos comptes détenus à l'étranger. Pourquoi ? Eh bien, c'est une obligation déclarative pour les contribuables français de juste dire « Ok, j'ai un compte ouvert à tel endroit, dans telle entité. » Pas ce que vous détenez sur le compte, ça pour l'instant, tant que vous ne faites pas de cash out, c'est-à-dire que vous ne convertissez pas de crypto en euros, le fisc s'en fout de ce que vous avez sur le compte, mais juste de dire que vous avez bel et bien un compte ouvert à l'étranger. Et attention pour la petite zone de flou, puisque là aussi ça n'a pas l'air très clair pour bon nombre de personnes, le fait d'être sur une plateforme PSAN, si elle est dans tous les cas considérée comme une plateforme étrangère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu le jour sur le sol français, eh bien même PSAN, ça pourrait être problématique de ne pas le déclarer. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Binance, il y a un an, ils ont eu une succursale en France, bientôt on va avoir les IBAN français, je ne sais pas trop quoi. » Apparemment, ça, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a des avocats fiscalistes qui ont mis en avant dès 2022 que voilà, on pouvait ne pas déclarer les Binance et compagnie. Je vous invite à être bien sûr de tout ça avant de ne pas le faire, puisque là, à aujourd'hui, il n'y a rien qui dit noir sur blanc que tel serait le cas. Donc déjà, on est sur une première information qui voilà, est un peu, on va dire, soumise à interprétation, et l'administration fiscale n'ira jamais dans votre sens si un jour il décide qu'il fallait absolument déclarer votre Binance. Donc je vous invite par acquis de conscience à dans tous les cas le déclarer. Et donc ce qui peut arriver entre 2025 et 2026, c'est qu'ils auront le pouvoir, notamment avec cet échange automatisé d'informations, si vous avez un compte ouvert à l'étranger et non déclaré, de pouvoir vous redresser sur une période pouvant s'étendre jusqu'à 10 ans. Et ça sera désormais majoré à 1500 par an au lieu de 750 précédemment si vous aviez 50 000 euros ou dollars qui avaient transité par le compte, ce qui ferait au maximum sur 10 ans 15 000 euros d'amende tout simplement. Donc il y a assez peu de chances que vous soyez des gens qui ont ouvert sur des échangeurs centralisés en 2015-2016. Il y avait quasiment rien à cette époque, mais ne serait-ce que pour la vague de 2020 qui n'a pas déclaré pendant 5 ans, ça fait déjà potentiellement une amende de 5 fois 1500 euros juste pour ne pas avoir déclaré son compte ouvert à l'étranger. Également au niveau des poncifs, non, une ledger ou un compte non custodial, c'est-à-dire votre MetaMask, votre Rabi, n'est pas à déclarer à l'administration fiscale, en tout cas pour l'instant, de même que vous n'avez pas, tant que vous ne faites pas de mouvement en euros, je répète, besoin de déclarer quoi que ce soit en termes de montant. À partir du moment où vous sortez en euros, là vous allez avoir un second formulaire à remplir au moment de votre déclaration d'impôt qui vous demandera par contre le total de ce que vous possédez en crypto-monnaie, et c'est là où ça devient un peu touchy de dévoiler l'ensemble de son patrimoine en crypto, mais c'est comme ça que c'est fagoté aujourd'hui. Et ensuite on en vient au dur de ce sujet, donc de ce durcissement, et je pense que les premiers qui vont passer à la moulinette, ils vont le sentir passer. L'imposition ne se fera pas d'office sur ce que vous n'avez pas déclaré, mais c'est en réalité encore plus sournois que ça. S'ils arrivent à justifier que vous avez délibérément soustrait à vos obligations déclaratives, ils peuvent qualifier ça d'activité occulte, et là non seulement vous allez manger du 80 à 90% de pénalité, mais aussi, accrochez-vous bien, c'est là où ça devient un peu moins marrant pour le coup, ils vont prendre au barème progressif. Alors après, on pourrait aussi se dire qu'ils peuvent prendre BIC, BNC et tout ça pour faire vous obliger à faire comme si vous aviez monté une entreprise. Je pense pas que ça sera ce qui sera choisi. Là, pour l'instant, ça discutait plutôt de mettre directement une imposition au barème progressif. Et donc, ils prendraient la plus haute somme en termes de référence de ce que vous aviez eu sur le 10 portefeuilles non déclarés en compte détenu à l'étranger à la date. C'est-à-dire, on prend un exemple concret. Vous n'aviez pas déclaré votre Binance ouvert en 2020. Vous avez fait 100 000 euros de profit en 2021, chose que beaucoup ont fait puisque c'était un cycle extraordinaire. Que vous les ayez cash out ou non, du moment que vous n'avez pas déclaré ce fameux compte détenu à l'étranger, admettons qu'en 2022, vous ayez perdu l'intégralité de ces 100 000 euros sur FTX, l'administration fiscale va pouvoir, dans le pire des cas, vous mettre le barème progressif sur 100 000 euros, donc on doit être sur quelque chose autour de 40 000. Il y a des paliers, donc théoriquement, ça doit mettre un peu moins de 40 000, mais j'ai préféré faire des comptes ronds. Donc on met 40% de 100 000, ça fait 40 000 euros, juste pour ce que vous auriez dû payer en termes de cash out si vous l'aviez fait, sauf que vous ne l'avez pas fait. Une amende record de plus 90%, donc on rajoute 36 000 euros, ce qui nous fait un total de 76 000. Et enfin, le wallet non déclaré pendant 5 ans supérieur à 50 000 balles, 5 fois 1500, 7 500 de plus. Donc pour 100 000 euros non déclarés sur un compte non déclaré, vous seriez potentiellement passible de 83 500 euros de redressement, soit quasi l'intégralité de la somme. On arrive autour de 83,5%, loin des 60% qui sont annoncés donc si on ne déclare pas les cryptos. Peut-être qu'ils mettront une amende forfaitaire voilà, pour dire on ne déclare pas ça au culte, on met 60% au lieu de 80% ou 90%. Mais dans tous les cas, vous vous doutez bien que par rapport à la flat tax qui aujourd'hui est autour de 30%, c'est super problématique. Et deuxièmement, tout ce qui vous préserve de l'ensemble des choses dont je viens de parler, c'est juste de déclarer sur votre formulaire 3916 quelque chose, le truc de dire « Ok, j'ai un compte ouvert à l'étranger ». Si vous ne l'avez pas encore fait à aujourd'hui, que vous aviez des comptes qui sont ouverts depuis 2020, 2021, 2022, etc., il est toujours temps de le faire et je pense que la bonne foi prévaut quand on parle avec des avocats fiscalistes. Mais à aujourd'hui, en tout cas, je vous invite et voilà, je ne suis pas votre père ou je ne suis pas affilié aux impôts ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous éviter d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée et que l'expérience crypto se transforme en cauchemar administratif. Allez, après ce sujet un peu pénible, on passe sur un peu plus de légèreté avec Figma qui se lance donc pour une IPO, une introduction à bourse à hauteur de 16,5 milliards de capitalisation et qui révèle 70 millions de détentions de Bitcoin ETF au travers donc d'une exposition et d'un boost en BTC, donc encore une société qui va être cotée, qui détiendra du Bitcoin. L'info The Big Whale avec Grégory Raymond, une nouvelle néobanque française qui s'apprête à proposer des cryptos à ses clients, et c'est Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, devrait opter pour la solution de Bitpanda en marque blanche. Donc ça n'est pas la première ni la dernière, ça fait petit à petit de Bitpanda un choix mine de rien pour les banques, donc ça reste vraiment une plateforme qui est d'intérêt à aujourd'hui et notamment en zone européenne. Willy Wu qui disait que depuis 2019, eh bien, on a malgré tout une baisse de la recherche du nom Bitcoin sur la Google Trend, et pour lui c'est normal puisque petit à petit c'est rentré dans l'inconscient collectif, ou du moins beaucoup de gens savent tout simplement ce qu'est Bitcoin. Donc ça, je suis un peu dubitatif, mais pourquoi pas, on peut considérer aujourd'hui que plus de gens savent et connaissent ce qu'est Bitcoin ou le Bitcoin tout court plutôt que l'inverse. J'ai quand même un doute là-dessus, puisque quand on voit des micro-trottoirs circuler, il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est ou qui juste en ont entendu voilà le nom quelque part, mais qui sauront même pas vous dire à quoi ça correspond et qui vous sortent des poncifs là aussi tous plus fumeux les uns que les autres. Mais aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que petit à petit les termes comme ça de recherche seront un peu moins pertinents. Vous avez Hawk Research qui vous a fait un excellent article sur Hyperliquid, l'AWS de la liquidité. Donc en ce moment il y a pas mal de projets qui sont en train de se construire autour, et on va bosser là aussi avec Hawk, je vous tease un tout petit peu, autour de nouveaux formats pour vous permettre aussi de voir un petit peu ce qui se passe sur de nouveaux sujets. Et c'est vrai que Hyperliquid, on n'en a pas énormément parlé sur la chaîne, je pense qu'il y a d'autres médias qui en parlent suffisamment à notre place pour ne pas les citer, mais voilà, c'est vrai que c'est un des gros sujets de ce cycle, donc c'est intéressant aussi de voir un peu plus tout ça en profondeur. Fait marquant et intéressant, même si ce n'est que les balbutiements de la cryptographie quantique, ou du moins du cassage de cryptographie via les ordinateurs quantiques, puisqu'ils viennent de casser une clé 5 bits, je crois, de l'algorithme de Shor. Donc on est encore très loin du 256 bits et des ressources que ça demanderait, et surtout de la puissance de calcul au travers du temps qu'il faudra, puis de pouvoir la rediriger sur certains calculs spécifiquement. Donc c'est assez complexe au final. Mais c'est une première étape importante, et quand on voit à quel point l'IA est en train d'avancer de manière exponentielle, pourquoi ce cassage algorithmique via les ordinateurs quantiques un jour ne serait pas une véritable problématique? Là aussi ça se pose. Toujours Grégory Raymond avec un brief complet stablecoin autour du Q2 2025 via l'équipe de recherche donc de The Big Whale, N'hésitez pas à aller le consulter, c'est un rapport qui est disponible en clair. JP Morgan, 4300 milliards sous gestion, qui pourraient offrir donc des prêts à leurs clients qui détiennent des crypto-monnaies. Je suppose que ça se fera sous couvert d'avoir en ETF du Bitcoin, de l'Ether ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, pour une super banque JP Morgan qui, il y a quelques années, via son CEO, disait que les cryptos étaient un scam, on voit que le volte-face est en train d'arriver. Avec Goku, The Blockchain Group qui change de nom et devient Capital B à l'image et à l'effigie du Bitcoin. Donc, comme MicroStrategy est devenu Strategy précédemment, voilà, c'est en train d'arriver. Cryptost avec Etena qui lève 360 millions de dollars pour soutenir son token ENA. Stablecoin X, nouvelle entité liée à Etena, prévoit d'acheter 5 millions de dollars de tokens par jour pendant 6 semaines. Attention, apparemment, ça serait un genre de market making déguisé derrière pour que les gros VC puissent nous dumper sur la tronche. Donc faites attention à vous de ce côté-là. Le prix risque de monter pendant un temps et derrière de redescendre assez sec. Pas mal de résultats cette semaine, que ça soit du côté des États-Unis, mais surtout de la bourse française avec du BNP, Interparfums, LVMH, Michelin, Total Energy. On avait du Coca et du MSCI du côté des États-Unis. D'ailleurs, MSCI qui a accusé le coup suite aux publications, alors que les résultats sont plutôt pas mauvais. Il y a peut-être un petit truc à regarder de ce côté-là. Schneider Electric est la fiche technique de l'analyste curieux, infographie qui regroupe absolument toutes les statistiques. C'est très intéressant. Il a publié hier Air Liquide également, je crois. On a le S&P 500 qui nous a fait un nouveau point haut. Vincent Gann qui nous teasait le total 3 face à Bitcoin, c'est-à-dire les petites altes, des petites gens, j'ai envie de dire, autour de 9 millions ici sur ce ratio. On a un point haut de borne autour de 20 millions, ce qui ferait un fois 2 sur ce ratio. À voir si l'alt season finit par arriver. Ce cycle qui n'aura pas été le cycle des institutionnels, comme on le disait, mais plutôt le cycle du daily d'initié, puisqu'on a le DJT au niveau de la société de Donald Trump, plus 8% suite au moment où ils ont annoncé qu'ils avaient donc 3 milliards en crypto-monnaie, dont 2 milliards en Bitcoin et Bitcoin Related Securities. Donc bon, complètement fou cette histoire aussi, mais voilà, on sent que les milliardaires autour de la galaxie Trump sont en train de s'en mettre plein les fouilles. Et avant de venir à l'analyse technique, on clôturera par un petit hors-sujet, mais j'ai trouvé ça marrant, c'était Rowan Atkinson alias Mr. Bean qui a détruit littéralement deux fois une voiture rarissime. Il n'en avait produit que 64 modèles. Il s'agit de la McLaren F1 qu'il a achetée en 1997 pour la modique somme de 715 000 euros. Ça commence à faire hein, en 97. Aujourd'hui, des voitures à 500 000 euros, 1 million et tout, on en voit quand même voilà, de plus en plus, puisqu'il y a eu l'inflation de plus de 25 ans qui est passée par là. Mais 715 000 euros en 1997, ça commence à faire. Remboursé pour un total de 1,2 million d'assurance qui lui aura permis de refaire la voiture deux fois. Elle a été vendue en 2015 pour 10,5 millions d'euros. Profit réalisé 9,8 plus. On pourrait même compter, donc ça ferait 11 millions les 1,2 qui ont été versés par l'assurance. Donc complètement dingue. Et donc ce petit gif de Mr Bean, ça rappelle des bons souvenirs pour ceux qui regardaient ça à la télé. Je crois que c'était le dimanche soir. Il y avait avant ça même Benny Hill. Bon bref, là je vais parler aux plus vieux d'entre vous, mais bon, ça nous replonge dans une époque que les moins de 20 ans n'auront certainement pas connue, voire même les moins de 30 ans peut-être. L'analyse technique, je vais essayer d'aller assez vite puisque j'ai déjà pas mal blabla sur les infos aujourd'hui. Le crypto total est juste sous les 4000 milliards, mais est en train de faire sa plus haute bougie en mensuel. Donc on est en mensuel ici un mois, comme vous le voyez sur TradingView. Les volumes sont les plus hauts volumes jamais exécutés, voire même on dépasse d'un bon 30% les volumes qu'on a exécutés en février 2021. Il est en train de se passer quelque chose. On est en train de casser les 70 en mensuel ici aussi avec la double trend hebdomadaire qui est ici et on pourrait viser donc, comme je vous le disais la dernière fois, autour de 87, ce qui nous ferait un troisième point de contact, voire quasi quatrième avec cette trend mensuel long terme et ce qui nous permettrait de faire le marchepied quelque part autour de 4000, 4500 milliards pour le crypto total. Les plus voilà, fifou d'entre vous viseront le step suivant, c'est-à-dire quelque part entre 5, 6 000, 7 000 milliards. Est-ce qu'on a le jus de nouveau pour multiplier le crypto total quasiment par deux sur cette fin de cycle? Voilà, je préfère prendre les choses un pas devant l'autre, comme je dis souvent, ce qui jusqu'ici nous a pas desservi quelque part. Peut-être on prend les profits un peu trop tôt par rapport à d'autres personnes, mais ça nous permet aussi petit à petit d'avancer sécurisé et d'avancer un peu plus sereinement, j'ai envie de dire. Le crypto total 2, lui, n'a toujours pas fait son point haut, donc on voit que les altes sont malgré tout sur un rattrapage, mais toujours un peu à la traîne. Alt season, pas alt season, je vous laisse seul juge. Le crypto Total 3, pareil, il nous faudra péter donc les 1130 milliards. La dominance des stablecoins va arriver sur son gros support autour de 0,05. On est à 0,06 aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas plus à exploiter de ce côté-là. La Bitcoin dominance qui pour l'instant a tenu autour de 60%. On va voir là aussi, est-ce qu'on descend un peu plus bas autour de 55-56? Est-ce que si le Bitcoin rebondit maintenant, ou peu importe d'ailleurs qu'il rebondisse ou qu'il baisse, il n'emporte pas de nouveau sa dominance avec lui, ce qui pour le coup permettrait une belle respiration du côté des alts. Pour l'instant, ça a l'air sur une très bonne dynamique, mais ça ne va pas durer indéfiniment. On a Ether qui commence un tout petit peu à bloquer dès lors qu'il s'approche des 3008, puisque tout ce qui se passera entre 3008 et 4000-4100 est une zone en mode un peu bouchon de champagne, j'ai envie de dire. C'est plus même cette zone aujourd'hui qui compte, les 4000, que les fameux 4965. Je suppose qu'à partir du moment où on s'installera durablement au-dessus de 4000-4100, les 5000 seront plus que voilà, un milestone à abattre, et derrière on aura le price discovery, les gens qui courront encore plus que ce qu'ils l'ont fait là maintenant derrière Ether. Et comme le disent les Américains, ça sera un rallye encore plus détesté. Du côté des indices et commodités, le dollar se fait repousser pour l'instant. Dès lors qu'il a approché les 99, on est de retour à 97, donc toujours un dollar affaibli. On a le Nasdaq et le S&P, donc hier ont fait un léger nouvel ATH, mais petit à petit, voilà, 3 mois de hausse d'affilée, on sent que, pareil, ça risque un peu de marquer le pas. C'est exactement pareil pour le Nasdaq. D'ailleurs, quand on voit cette bougie, elle est complètement folle. On était venu à 16 500 au moment des droits de douane de Trump, et l'amplitude, elle avait commencé à 19 600. Donc, c'était une amplitude sur une seule bougie pour le Nasdaq autour de avril, qui était de l'ordre de 16% d'amplitude. C'est complètement dingue. Pour vous donner un ordre d'idée, les bougies du crack Covid pour le Nasdaq, c'était la première 16. Donc, voilà, on est dans ces eaux-là. Et la deuxième, au moment où vraiment le monde, on voyait qu'on allait être à l'arrêt, moins 25%. Donc, inutile de vous dire que là, le moment où on a eu cette problématique des tarifs de Trump, eh bien, vraiment, les marchés étaient rentrés en mode panique, et pas qu'un peu, puisqu'on peut voir que, voilà, en mensuel, on a des bougies qui sont à peu près similaires à la première qu'on avait eue au moment du Covid. On a le gold qui est en train de se rediriger vers son haut de range, puisqu'on est à 3420$, donc on a les 3450-3500 à faire péter. Là aussi, regardez, ce RSI mensuel est plus haut que ce qu'il ne l'a jamais été depuis 2006, voire même ici, on était autour de 86, et aujourd'hui, on a un truc qui est autour de 87. Donc vraiment, on est au plus haut du plus haut. Quand vous regardez le chart comme ça, on a beau être en logarithmique, on a une verticalité qui est complètement monstre, et un simple retour à la moyenne mobile 20 mois. Aujourd'hui, c'est 2650$ l'once pour le gold, ce qui nous ferait un retracement d'environ moins 22, moins 23%. Alors ça peut paraître pas énorme quand on est habitué, nous, à la volatilité des actions et des cryptos, mais pour les métaux précieux, voilà, les retours à la moyenne seront assez vertigineux par la suite. Du côté des alts, comme je vous disais tout à l'heure, on est aux portes de la découverte de prix à 800$ pour BNB. Ça aussi, je vous en avais parlé régulièrement au cours de ce cycle, que c'était un des très bons élèves. On a beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux Solana et à juste titre, ou des Tao, BitTensor, etc. Mais on a oublié des trucs comme ça qui se sont construits longtemps dans l'ombre et qui vraiment là pourraient avoir une dynamique assez extraordinaire. Ceci étant dit, RSI autour de 72 en mensuel. On peut tout à fait aller chercher du 1000$ et peut-être un peu plus, mais est-ce que le mouvement est en notre faveur aujourd'hui? Voilà, je pense pas qu'on va faire une bougie comme on a fait ici en février 2021, qui a fait passer de 43$ à 370$, vous vous en doutez bien. On est sur des ratios bien capitalisés et on est sur des mouvements qui seront forcément beaucoup plus contenus. Il y en a un que je voulais passer également et dont on a fait le suivi assez régulièrement, c'était le token de Swissborg, qui pendant longtemps s'est plutôt pas mal tenu, notamment sur le dernier trimestre ici, où il faisait un peu le yo-yo entre 16 centimes et la borne haute des 26. On est au contact de la moyenne mobile à 50 mois ici, autour des 30 centimes. Le range, le haut de range à abattre est autour de 36 centimes. Et ensuite, on a un ATH aujourd'hui pour ce token à 1,67$ que je ne vois pas être atteint. Mais ne serait-ce que de revenir un peu travailler autour de 40, voire par la suite en cas d'alt season, d'aller quelque part entre 50 et 70 centimes, ça paraît être venir chercher un x2. Voilà, pas complètement déconnant pour ce genre de token. Et on voit que eux, ils continuent de construire la plateforme exactement comme le bien que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis de Bitpanda, qui a eu cette logique d'offrir sa solution en marque blanche. Aujourd'hui, voilà, Swissborg, pour la partie européenne, ça fait partie vraiment du top du haut du panier avec Bitpanda, avec désormais pour la France des blocs, et on a a comme ça des acteurs qui sont bien implantés depuis plusieurs années. Des blocs peut-être un peu moins puisque c'est un peu plus récent, mais des blocs ont eu ça pour eux d'arriver de suite avec le PSAN renforcé. Ça a été les premiers à l'avoir. MiCA compliant, ils sont considérés quasiment à l'équivalent aujourd'hui d'une banque. Je suis pas en train de dire que des blocs est une banque, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, petit à petit, on a quand même des acteurs comme ça qui sont en train de bien s'implémenter. J'aime plutôt pas mal également ce qui est en train de se passer du côté de Injective en mensuel. Pareil, la clôture va nous permettre de s'affranchir des 14$. Le range suivant, c'est les 20$ avec la moyenne mobile 20 mois qui est autour de 22$. On a un autre range supérieur à 31 et un ATH aujourd'hui autour de 53. En provenance des 15$, 53, ça me paraît un peu haut, mais ne serait-ce que raccrocher le wagon ici autour de 22, voire en cas d'alt-season autour de 30$, ça paraît plutôt pertinent pour Inge. Si on fait les calculs, vous voyez que de nouveau, c'est plutôt des fois deux hein, que je vise sur des alts qui ont déjà bien performé et qui sont déjà bien capitalisés. Je sais que ça ne fait pas rêver, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais s'il y a alt-season, etc., on aura des fois 5, des fois 10, etc. » Peut-être, mais pas sur des alts déjà capitalisés qui ont déjà fait des fois 10, des fois 20, des fois je ne sais pas combien et qui sont déjà en haut de l'affiche quelque part. Si vous voulez vraiment faire des gros multiples, malheureusement, ça se fait au détriment de prendre d'énormes risques sur des petites capitalisations. On terminera peut-être avec Ondo qui, pareil, est en contact d'une borne ici assez importante autour de 1$, 1$10 en mensuel. Donc on a le premier grand creux. Est-ce qu'on va faire une petite consolidation ici? Est-ce qu'on passe immédiatement? En tout cas, on voit qu'on a une zone de polarité mensuelle autour du $1.50 pour Ondo, ce qui ferait approximativement 40% pour ceux qui font un peu de trading court terme. Et on a un ATH autour de 2,15$. Donc là aussi, pareil, un x2 approximatif lors d'une future alt season qu'il pourrait dépasser potentiellement, lui, si vraiment on avait des flux qui étaient en train de rentrer. Ceci étant dit, comme vous pouvez le constater sur Coinbase, depuis tout ce temps-là, depuis à peu près 6 mois, on a des volumes qui sont sur le déclin, même lors de la reprise ici. Donc pour l'instant, on n'a pas tout le monde qui se pousse au portillon par rapport à Ondo. Et ce qui est vrai pour lui, l'est aussi pour Link, l'est aussi pour Avax, l'est aussi pour l'ensemble des altcoins quasiment. On a des petites rotations qui sont en train de se faire. On a Ether qui a récupéré un tout petit peu de force. Mais comme j'aime à le rappeler, la première fois que Ether était autour de 4 000$ en 2024, et Bitcoin était à peine à 66, 68 000. Donc on voit encore que pour simplement rattraper le ratio qu'on avait à cette époque en 2024, il faudrait que pour un Bitcoin à 120 000, on ait déjà un Ether quelque part entre 5 000 et 7 000 plus. Donc on est vachement en retard. C'est pour ça que les flux se sont dirigés ici, doublement alimentés par les ETF au comptant, spot. Mais derrière le reste des altcoins, comme bon nombre de participants le disent aussi là en commentaire sur les réseaux sociaux, sont encore à des moins 50, moins 60, moins 70, moins 90. Donc quand bien même il y aurait une alt season qui permet effectivement sur les dossiers qui ont le plus perdu de récupérer un x5 et sur les dossiers bien capitalisés de récupérer un x2 à x3, vous voyez que dans tous les cas, ça sera très certainement une alt season qui aura une saveur bien différente de celle qu'on avait eue en 2017-2018 et surtout celle qu'on a quasiment tous connue, en tout cas pour bon nombre de personnes qui ont suivi la chaîne autour de cette période en 2020 et 2021. Je vous souhaite une excellente journée, on continue d'être prudent, de prendre ses petits profits quand on a des belles performances. Le but n'est bien entendu pas de tout vendre ou de tout jeter par la fenêtre, toujours être mesuré, toujours être bien dans cet auto-apprentissage et humilité que nous imposent les marchés à partir du moment où on commence à un peu trop se voir en haut de l'affiche, et c'est exactement ce qui m'était arrivé avec ma boucle DeFi sur Ether, eh bien on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce week-end. Ciao, ciao.